l'écosystème de la santé. Elle connaît aussi bien le médecin, le patient, les hôpitaux, la pharmacie et même les sapeurs-pompiers et vice-versa. Donc, Apollo permet de créer une base de données fiable, à jour, des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, Apollo facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des faibles en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpractice, comme on le dit en fait en français, ça on permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la
campagne. Mais ça sera coûteux?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 franc, parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. Nous avons Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Moment Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte à compter de janvier 2020 pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque de grossesse et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards à l'horizon de 2050, c'est-à-dire qu'on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses pour protéger la mère, pour protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ses malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire, il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin, entre la femme enceinte, bien sûr, et le médecin.
Il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore, nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur pendant le quotidien de la grossesse. Elle pourra contacter la sage-femme n'importe quel soin. Et lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment. Merci. Et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant des SCB Systems. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pouvons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau le moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'aspect local qui est cinétique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au-devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Pour proposer une solution aux normes internationales qui est déjà encensée aux États-Unis, il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais des solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, « The measure of a man is what he has with the power. » Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. Je tiens tous à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application APLO s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense qu'en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce qu'il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moins de coûts. Voilà un peu ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, le dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons opté pour Apollo.
Quel est le processus de mise à disposition d'une application mobile en santé? Combien ça vous a pris le temps?
Bon, en général, tout d'abord, il faut avoir une raison pour la création d'une application mobile en santé. Ensuite, il y aura 5 étapes que je définis comme la validation du modèle de business.
Et quelles sont ces 5 étapes?
L'étape de la confirmation des fonctionnalités, l'étape du design de l'application, l'étape de l'élaboration de la sécurité et de la conformance aux lois en vigueur dans chaque pays, et l'étape du développement de l'application pour terminer. Avec nous, Arlo, nous sommes maintenant à 19 mois en fait de développement. Nous avons pu avoir la chance d'avoir différents dons de la part de Amazon, 100 000 $ par-ci, 50 000. Nous avons été chanceux d'avoir un produit qui fait l'unanimité. À George Washington University, le directeur de l'innovation était juste ému. Il dit « Wow, c'est so big ». On dira que c'est une chance d'avoir un truc qui est, pour le moment, l'innovation la plus adaptée aux problèmes africains.
Est-ce que vous êtes vous-même satisfait de ce que vous réalisez à travers Apollo?
Simplement satisfait, je suis à 100%. Je peux le dire en anglais, si possible.
Oui.
I have all my heart, yes. How my heart is like based on like Apollo. I wanted to make it successful
donc,
and everything.
Vous êtes entièrement dévoué à Apollo. Votre cœur est entièrement dévoué à Apollo. Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, le paludisme reste un défi de santé publique en Afrique. On en parle. Au Nigeria, des patients ayant des symptômes du paludisme évitent les centres de santé à cause du Covid-19. Nous jetons un regard. Enfin, une application d'apprentissage de la langue des signes au Kenya démontre une fois de plus l'impact positif des nouvelles technologies. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Environ 229 millions de personnes ont été infectées par le paludisme dans le monde en 2019, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le paludisme est une maladie infectieuse causée par des parasites Plasmodium et transmise par les moustiques. La maladie tue plus d'un million de personnes chaque année, la plupart en Afrique subsaharienne. La fièvre, les maux de tête et les frissons sont certains symptômes du paludisme. Si elle n'est pas traitée rapidement, la maladie peut devenir grave et entraîner la mort. La plupart des victimes sont des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Selon le dernier rapport mondial sur le paludisme, environ 409 000 personnes sont mortes de la maladie en 2019. Partons au Nigeria, où les autorités sanitaires affirment que certaines personnes présentant des symptômes du paludisme refusent de se rendre dans les centres de santé pour des tests. Ceci est dû à la peur d'être diagnostiqué de COVID-19 en raison de symptômes similaires ou la peur d'attraper le coronavirus dans une clinique. Reportage de Timothée Obiezu, récit Blanche Sanou.
Les deux fils de Fatima Mohamed ont contracté le paludisme. Mais plutôt que de les amener à l'hôpital, elle les soigne à la maison par peur d'attraper le nouveau coronavirus.
Je n'ai pas d'argent pour les emmener à l'hôpital. Et encore à l'hôpital, ils pourront dire facilement que c'est le coronavirus. Je n'ai pas d'argent pour ça.
Le paludisme et le COVID-19 présentent des symptômes similaires. Mais la peur et la stigmatisation liées à la pandémie sont des raisons pour lesquelles beaucoup comme Fatima cherchent des alternatives au traitement hospitalier. Les experts affirment que les visites à l'hôpital pour le paludisme ont considérablement baissé depuis que le coronavirus a été signalé pour la première fois au Nigeria en février 2020. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie menace des années de progrès contre le paludisme et les taux de mortalité pourraient doubler. La perturbation des mesures préventives est à blâmer, selon Linda Ozor, consultante de l'OMS.
L'utilisation de moustiquaires imprégnés de longue durée, la prévention du paludisme saisonnier par la chimiothérapie et la prévention pendant la grossesse ont été interrompues. Donc, en supposant que toutes ces interventions préventives soient interrompues, c'était prévisible ce qui arrive et les enquêtes montrent qu'il y aura des effets très négatifs.
Le Nigeria représente environ un quart des cas de paludisme dans le monde et environ 23% des décès. Adeboyega Adeyogo, qui dirige les opérations pharmaceutiques dans une entreprise nigériane, a déclaré que même avant le début de la pandémie, de nombreux Nigériens prenaient le paludisme moins au sérieux.
Grâce au progrès de la santé et de la technologie, de nombreuses personnes traitent le paludisme en quelques jours. Vous voyez donc que de nombreux Nigériens le prennent maintenant avec beaucoup de légèreté en raison de la facilité de traitement. Mais s'ils décident de ne pas se soigner, alors cela devient un problème majeur. Aujourd'hui, vous commencez à avoir les complications graves liées au paludisme.
En 2020, le programme d'éradication du paludisme au Nigeria prévoyait de distribuer des moustiquaires, des médicaments antipaludiques et d'effectuer des tests de dépistage gratuits du paludisme à 31 millions de personnes. Mais les perturbations causées par le COVID-19 ont fait qu'il n'a pas pu atteindre que la moitié de son objectif. Cela inquiète davantage les spécialistes de la santé qui estiment que le paludisme avec le COVID-19 resterait une menace pour les Nigériens dans les années à venir.
Docteur George Duarte est médecin généraliste à l'hôpital général de Luanda en Angola. Il s'est entretenu avec Mayra de la Salette de VOA sur certains des défis de la lutte contre le paludisme et a partagé quelques conseils.
Dans notre réalité, les cas de paludisme cérébral sont plus fréquents parce que nous avons un système de santé qui manque de structure en matière de soins primaires, ce qui signifie que nos patients commencent généralement le traitement avant de se rendre à l'hôpital ou dans un centre médical, empiriquement, et quand cela ne fonctionne pas, tant de fois ils suivent le traitement du voisin ou celui d'un ami qui présentait les mêmes symptômes. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, ils arrivent avec un niveau élevé de parasitémie, avec un niveau élevé de paludisme, et en raison du nombre de cas, nous ne pouvons pas revenir sur la situation du patient. Malheureusement, tous les patients n'ont pas accès aux médicaments et ils finissent par ne pas les prendre. Parfois, ils ne prennent que du paracétamol, éliminant les symptômes, mais ne traitant pas le plasmodium, ce qui maintient le cycle de reproduction jour après jour, jusqu'à ce que le patient arrive à l'hôpital parce qu'il s'est effondré ou sur le dos de quelqu'un ou presque mort. Et les chiffres de l'année dernière ont même augmenté. Et pourquoi ? Parce que les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Nous sommes dans une phase pandémique. Et les gens ont peur qu'en se rendant à l'hôpital, ils soient infectés par le COVID-19. Mais cette peur a contribué à ce qu'une fois infectés par le paludisme, ils restent à la maison, ils effectuent un traitement empirique et comme je l'ai déjà dit, le plasmodium continuera à se reproduire et il sera trop tard quand ils arriveront enfin à l'hôpital, ce qui augmente les cas et les décès. C'est pourquoi il est extrêmement important que les gens sachent comment se protéger de la piqûre de moustique. Lorsque le soleil se couche, c'est à ce moment que les moustiques attaquent. Alors, que devons-nous faire pour éviter cela? Il faut mettre les moustiquaires sur nos fenêtres et portes, porter des chemises à manches longues, des répulsifs, éviter l'eau stagnante, les ordures, et de manière collective, prendre soin de l'assainissement qui est très déficient dans nos communautés.
Dans le monde entier, les gens se posent des questions sur l'efficacité et la sûreté des vaccins anti-Covid et certaines personnes hésitent à se faire vacciner. Carole Pearson apporte des précisions sur certaines croyances erronées très répandues quant à ces vaccins. Dilidico raconte.
Lorsque le COVID-19 est apparu, les scientifiques du monde entier se sont retrouvés dans une course effrénée pour parvenir à formuler un vaccin contre la maladie. Le virus qui a provoqué la pandémie a fait plus de 2 millions de morts et infecté plus de 100 millions de personnes dans le monde. Pourtant, malgré la protection prouvée qu'offrent les vaccins anti-Covid, nombreuses sont les personnes qui disent ne pas vouloir se faire vacciner.
Je ne sais pas ce qu'il faut croire, s'il faut croire aux infos ou croire à toutes ces autres choses, vous voyez.
Je suis un peu sceptique. J'aimerais savoir comment ce vaccin va agir sur mon système immunitaire.
Je ne vois pas pourquoi je me ferais vacciner pour une maladie que je pourrais ne jamais avoir.
Le scepticisme est tout aussi réel dans les grandes villes comme Los Angeles que dans les petites.
Le problème, c'est si ça ne se passe pas comme prévu et qu'on attrape le virus ainsi, alors on fait quoi ?
Certains vaccins sont fabriqués à partir de virus affaiblis ou morts. Mais les experts expliquent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le docteur Tosin Goji de la Cleveland Clinic est une spécialiste des maladies infectieuses.
Le vaccin ne vous donnera pas le COVID. Ce n'est pas un vaccin vivant. Vous n'allez pas être infecté du COVID-19.
Bien que les vaccins soient nouveaux, le docteur Goji dit que la technologie utilisée pour les formuler ne l'est pas.
Il a été initialement conçu pour les patients atteints du cancer, donc ce n'est pas comme si nous venions de découvrir cette technologie au cours de la dernière année pour prévenir le COVID. C'est un procédé qui était déjà en place et lorsque l'opportunité s'est présentée, c'était tout simplement le moment idéal pour utiliser cette technologie.
L'Organisation mondiale de la santé a un site web qui démonte les différents mythes sur le Covid et répond aux nombreuses interrogations sur les vaccins anti-Covid et le virus lui-même, y compris à la question de savoir qui peut tomber malade du nouveau coronavirus. La réponse étant tout le monde. Certaines personnes se demandent si la consommation d'aliments comme l'ail peut aider à les protéger du Covid. D'autres veulent savoir si la prise de suppléments alimentaires ou de vitamines pourrait les protéger. L'Organisation mondiale de la santé explique qu'il n'y a aucune preuve que cela puisse les aider. Et puis il y a aussi une croyance répandue selon laquelle les vaccins peuvent changer le code génétique.
Cela détruira votre ADN et vous serez une sorte de transhumain car vous allez recevoir des nanoparticules.
Les vaccins Pfizer et Moderna sont des vaccins à ARN, aussi appelés vaccins ARN messagers. Pour comprendre, partons de la protéine à pic sur le virus COVID-19. Ces vaccins à ARN enseignent à nos cellules comment fabriquer une protéine ou même un petit bout de protéine afin de déclencher une réponse immunitaire dans notre corps.
Cela ne change pas votre ADN. Les gens pensent « Oh, le vaccin va me changer ». C'est justement la raison pour laquelle je prends des photos, pour montrer qu'il ne s'intègre pas à votre ADN. Donc non, cela ne change pas qui vous êtes.
L'Organisation mondiale de la santé appelle à des campagnes massives d'éducation du public pour répondre aux inquiétudes des gens face aux vaccins anti-Covid. Les experts affirment que les vaccins ainsi que d'autres efforts de prévention comme garder ses mains propres, porter des masques et respecter les mesures de distanciation sociale vont mettre fin à la pandémie à condition bien sûr que les gens suivent ces pratiques.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la télésurveillance des patients avec notre invité, Sukushek Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Sukushek Bomba est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, un outil important qui facilite la téléconsultation et la télésurveillance des patients et favorise aussi la promotion de la santé en Afrique. Après, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre